à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue sur l'antenne de Principe Actif pour une nouvelle émission intitulée « On peut faire mieux », que je suis heureux de co-animer avec vous, Olivier. Bonsoir.
Bonsoir, bonsoir Timothée.
L'idée sera pour nous de traiter une fois par mois un sujet qui nous tient à cœur, qui nous questionne ou nous interpelle, avec à chaque fois des invités, des micro-trottoirs et de la musique, toujours en lien ou presque avec le thème choisi. Et pour ce premier numéro, nous vous parlerons éducation populaire. Pour ce faire, nous avons invité Céline Goulot, chargée de mission, et Marina Proust, animatrice pour les Francas de l'heure. Bonsoir à toutes les deux.
Bonsoir.
Nous serons également avec Dominique Knockert de l'Amicale de Navarre. Vous êtes administrateur de l'Amicale de Navarre. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Et enfin, notre dernière invitée, c'est Didier Rouchet. Vous êtes vice-président de l'Amicale laïque Évreux-Est. Bonsoir à vous.
Bonsoir à tous.
Et pour lancer nos discussions, je vais vous proposer d'écouter un premier extrait de micro-trottoir que nous avons réalisé ce matin même dans les rues d'Évreux.
Qu'est-ce que c'est que l'éducation populaire? Qu'est-ce que ça évoque pour vous?
Plutôt les écoles publiques, hein.
Bah, je sais pas. Écoutez, beaucoup de choses. D'abord l'école, ensuite les mouvements politiques, ensuite les syndicats, ensuite voilà, tout. C'est un tout. Pour moi, c'est un tout.
L'éducation populaire.
En général, l'éducation de tout le monde. Voilà, une éducation de base qu'il faut, le respect, tout ça, etc., etc., quoi.
Bah, pour moi, l'éducation populaire, c'est l'instruction publique, c'est-à-dire les écoles publiques où on apporte un savoir aux enfants, une culture. Non, t'es d'accord avec moi?
C'est laïque, hein. C'est laïque, c'est tout.
C'est laïque.
Oui, c'est laïque. Oui.
Bah, l'éducation des enfants.
Voilà, un premier extrait de micro-trottoir. J'ai la sensation qu'on fait un peu la confusion parfois avec l'éducation nationale, l'éducation en général. Je vais vous proposer un premier tour de table si vous voulez réagir à ce qu'on vient d'écouter. Didier Rouchet.
Voilà, donc l'éducation populaire, ça s'est posé directement en 1789, Condorcet à l'Assemblée nationale. A carrément dit, il y a ceux qui raisonnent et ceux qui croient. Donc là, présentement, il y a des gens qui croient, mais qui ne raisonnent pas, ou qui commencent à raisonner. Quand on parle de parti politique ou de syndicat, c'est déjà du raisonnement. Donc ils raisonnent. Et après, il y a ceux qui croient, qui attendent qu'on leur donne un raisonnement. Voilà, c'est l'éducation populaire, elle est vraiment dans tous les milieux, dans tous les étages, mais c'est vraiment le donner-recevoir.
Dominique, Céline, Marina, si vous voulez réagir.
Ouais. Alors moi, je pense que déjà, il y a une bonne réflexion, même si quand on parle d'éducation populaire, on pense tout de suite à l'école. Faut pas oublier qu'on est complémentaires. Donc quoi qu'il arrive, même si il y a confusion ou s'il n'y a pas la bonne définition, on a quand même un petit bout qui est là, qui est important. On a éducation. J'ai entendu. Dans le micro-trottoir que des personnes disaient, alors il y avait un jeune homme qui parlait de l'éducation des enfants, donc ça c'est top, laïque, pour tous, donc on est dedans, on est bien. Je pense que même si on n'est pas dans l'animation, l'éducation populaire, le grand public a quand même une bonne idée de ce qu'on fait, donc pour moi ça me va.
Des valeurs aussi.
Dominique ?
Oui, ben, ce qui est intéressant, c'est que quand même il y a l'éducation qui est prenant pratiquement par tous les intervenants. Il y a l'éducation populaire, comme son nom le dit, qui a éducation effectivement. C'est une éducation qui est, de mon point de vue, complémentaire de celle de l'école. Et c'est un mouvement qui est en parallèle de toutes les institutions, qui sort du cadre de l'institution. Donc là-dessus, alors pour revenir aux enseignants, moi à l'époque que j'ai connue, il y a encore quelques années, c'est vrai qu'il y avait dans les enseignants des maîtres et des maîtresses qui participaient à des colonies, qui participaient à des associations et qui faisaient des liens entre leur école et la société.
Oui, c'est vrai que j'aime bien la vignette historique. Je l'utilise dans un de mes cours sur l'éducation populaire, d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'on n'arrive pas à trouver, on n'arrive pas à former une définition claire et intemporelle de l'éducation populaire. Elle est parce que elle se calque sur un mouvement. Donc elle est en constante évolution, elle est en constant débat, elle est en constante construction. Elle se construit elle-même en tant que savoir, en tant que pratique, l'éducation populaire. Donc la définir, en faire un objet, un état intemporel, c'est mission impossible. Après, moi, il y en a une que j'aime bien, qui est celle de la toupie, qui est un site d'éducation populaire et qui la définit comme visant essentiellement l'amélioration du système social et l'épanouissement individuel et collectif en dehors des structures traditionnelles, famille, école et institutionnelles, l'enseignement public, etc.
Alors
oui,
nous,
bien dans le micro.
Oui, pardon. Alors nous, dans pas mal d'ouvrages Franca, on a une phrase qui est assez récurrente et qui pour moi définit et qui m'a donné tout de suite un sens en fait à l'éducation populaire, c'est que on a une ambition d'éducation par tous, pour tous et partout. Donc moi je pense que c'est une bonne définition et elle me paraît assez claire.
Je vais demander aux deux acteurs des amicales, que ce soit Évreux-Est, la L2E et l'amicale de Navarre, Didier Rouchet, Dominique Nockert, comment vous, dans vos structures, vous mettez en application, ou plutôt votre approche de l'éducation populaire en quelques mots, puisqu'on va avoir toutes les missions pour être un peu plus précis, mais comme ça, spontanément, qu'est-ce que vous auriez envie de dire sur votre approche à vous? Dominique, Didier, commencez, je vous en prie.
L'approche dans les amicales de quartier, comme ça, laïque et populaire. En fait, le but, c'est d'amener les gens à partager et à co-construire. Nous, c'est que de la co-construction. Donc, les gens, on les amène à réfléchir, à amener leurs idées. Et ce qui est le plus important aussi, c'est à juger leurs résultats. Quand ils construisent ou on co-construit une action, on leur demande aussi d'évaluer. Et ce qui permet aussi de réfléchir, là, si vous faites une erreur ou vous avez un gros succès à un moment donné, vous vous en servirez la fois d'après. C'est ça la co-construction. Et ça, c'est déjà de l'éducation populaire.
Dominique,
un exemple concret pour l'amicale de Navarre. Il va y avoir bientôt Méga Navarre de rue. Donc, Méga Navarre de rue, c'est pas géré par les permanents, c'est un collectif de bénévoles, je dirais plus de militants, parce qu'on peut parler de militants de l'éducation populaire, un terme qui est plus connoté aux partis politiques ou syndicaux. Donc on a un collectif, et puis sur cette manifestation, il va y avoir 40, 60, 70 bénévoles qui vont participer à la restauration, à des aménagements pour les arts plastiques, à la gestion des groupes de musique, au sport, c'est quelque chose qui est préparé depuis longtemps et qui chaque année on retrouve des gens et des nouvelles personnes qui viennent s'inscrire dans un projet qui est initié quelque part par le centre social, puisque on est habilité centre social.
Je vais vous proposer un nouvel extrait de micro-trottoir pour poursuivre nos discussions.
L'éducation populaire, ça sert à quoi?
J'espère que ça sert à apprendre à bien lire aux enfants, à compter, parce que c'est un minimum. Hein.
À aider les gens. À informer ou désinformer les gens, j'en sais rien en fait. Hein. L'école, c'est obligatoire parce que ça permet d'avoir quand même une certaine culture et ça évite à des tas d'imbéciles après d'aller manifester sans savoir ni comment ni pourquoi. Ça aussi évite les gens de se regarder de nombril en se disant qu'ils sont malheureux alors qu'autour d'eux, il y a vraiment de la misère dans le monde et ça, ils ne le voient pas.
Ça sert à quoi? Donner des bonnes bases à nos enfants dès le départ, quoi. Une bonne éducation, quoi.
Ça sert à éduquer un peuple, à lui apprendre d'abord à lire, à écrire, à s'instruire, hein, ce qui est quand même très important à notre époque.
Un peu plus de respect envers les adultes.
Une réaction, l'éducation populaire, ça sert à quoi?
Ça, c'est une bonne question.
C'était un peu provoque. Hein.
Non, mais oui, effectivement, la dame qui dit ça sert à écrire, à lire, à s'instruire. Donc je partage ça, mais ça c'est pour l'école. Par contre, pour les associations d'éducation populaire, à l'origine il y a un projet éducatif, donc qui est un peu autre que celle de l'académie scolaire. Donc il y a aussi le terme de militant et le terme de l'adhésion. Donc quand on adhère, aujourd'hui on parle de bénévoles, moi je parle de militants, de l'éducation. Alors il y a des gens qui sont bénévoles parce que ils viennent comme ça et puis ils n'ont pas plus que de compétences que ça ou de volonté de partager un certain nombre de choses.
C'est la question aussi du statut légal du rôle qu'on occupe dans la structure.
Oui, 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 oui. Ben heureusement qu'il y a des bénévoles, mais je préfère le terme de bénévole, de militant bénévole, plutôt que de bénévole qui éventuellement pourrait militer.
Une réaction, Didier Rocher.
Oui, pour je suis surpris dans les, toujours dans le micro trottoir, c'est les gens ils reçoivent et il y en a aucun qui donne. Ils sont tous dans la réception et l'éducation populaire. C'est d'apprendre les gens, bien sûr. Quand on dit, la dame dit l'enseignement à l'école, on leur apprend à lire, à compter, c'est pas que ça. Si c'était que ça, ce serait triste. Il faut aussi leur apprendre à raisonner. Et en fait, les raisonnements, en fait, ce qui va donner la quintessence vraiment maximum de l'éducation populaire, c'est le raisonnement. Les gens, quand ils vont comprendre que des choses sont possibles par différents moyens, c'est le raisonnement qui l'amène. On le voit bien avec l'écologie à l'heure actuelle, ça a été une longue, longue explication, et en fait, les gens, à force de se dire « oui, il y a un problème avec tel pesticide ou autre », c'est du raisonnement, on les amène à quelque chose. C'est aussi de l'éducation populaire.
Est-ce que pour les Francas, Marina ou Céline, vous voulez compléter ?
Ouais, bah en fait, nous, en tant que salariés, quand on se pose la question à quoi sert l'éducation populaire, on a envie de se dire un peu à quoi on sert nous, parce que du coup, on est un peu quand même payé pour véhiculer ces valeurs et l'éducation populaire. Qu'est-ce que c'est ? Moi, quand je vais animer un groupe d'enfants sur des sciences, sur de la cuisine, sur les droits de l'enfant, sur de la philo, je me dis pas, tiens, je vais aller leur apprendre quelque chose aujourd'hui. Je me dis plutôt, tiens, on va aller raisonner ensemble, on va échanger des savoirs, on va échanger des compétences. Qu'est-ce qu'on en fait ? Comment je fais pour susciter le raisonnement chez eux, le questionnement, plutôt que de dire, bah moi, papa m'a dit ça, moi, maman m'a dit ça, c'est plus, ouais, mais toi, qu'est-ce que t'en penses ? Comment tu mettrais ça en œuvre ? Ou, si on est sur de la science, en général, les enfants attendent de moi que je leur donne la réponse à comment on expérimente ceci, cela, qu'est-ce que ça fait si on mélange du bicarbonate et du vinaigre ? C'est tout bête quand on arrive avec cette expérience-là, mais moi, ce que je veux à la fin de cette expérience, c'est plus... Mais comment tu as fait ? Comment tu as raisonné ? Parce que forcément, tu vas essayer et tu vas te dire, ben mince, je veux pas essayer parce que j'ai peur de pas réussir. Et moi, c'est ce que je veux, en fait. C'est que j'ai envie que les enfants expérimentent, j'ai envie qu'ils se posent des questions, j'ai envie qu'ils se demandent, mais pourquoi on fait ça ? Comment ça se fait ? Et moi, c'est comme ça que je vois l'éducation populaire. C'est que on va échanger des choses, on va travailler ensemble, on va mettre des projets en commun. Enfin, c'est ça qui anime en fait notre travail tout au long de l'année.
Il y a en effet un des éléments centrales, c'est celui du lien social. Comment l'éducation populaire fabrique-t-elle encore du lien social et comment le fait-elle ? Voilà, encore une question un peu provocatrice volontairement, mais voilà, je ne sais pas qui veut répondre sur cette question du lien social. Est-ce que l'éducation populaire en fabrique-t-elle encore et comment ? Didier Rocher.
L'éducation populaire fabrique encore du lien social. Hein. Les associations dans les quartiers travaillent beaucoup justement à cette relation, à la co-construction avec les habitants. C'est en fait à chaque habitant qui va participer, va amener sa pierre à l'édifice. Quand on donne aussi des cours entre guillemets d'alphabétisation, on préfère le mot sociabilisation, puisque ça amène les gens à partager. Et en fait, c'est toute cette partie-là qu'on va travailler et qui vont faire que les gens vont se regarder de manière différente et vont s'apporter différentes cultures. Nous, même si on a 30 ou 35 nationalités sur le quartier, ça ne nous empêche pas d'aller au musée d'Évreux avec eux pour leur faire voir notre histoire, qui est souvent la même que la leur. Et on se dit, tiens, on est pareil, quoi. Hein, c'est ces choses-là qu'on essaye de faire partager. Alors, à contrario, actuellement, il y a une difficulté, c'est l'information instantanée qui nous pollue. L'information instantanée, en fait, des réseaux sociaux ou autres, pollue beaucoup. Quand vous mettez du temps à expliquer des choses, à la construction de quelque chose. Je vois Navarre, nous, on a pas mal d'activités culturelles. Ils ont un gros festival d'art plastique.
Une fête de quartier.
Fête de quartier qui est vraiment, en art plastique, est vraiment assez costaud. Nous, on l'a toute l'année en briquette, hein, parce qu'on a beaucoup d'ateliers artistiques. Et on va amener les gens à faire une représentation, une image. Il y a quelques années, on a l'animatrice poterie avait demandé comment vous vous voyez. Faites une tête, comment vous vous voyez. Eh bien, écoutez, sur, je sais pas, il y avait 25 têtes. Les 25 têtes, c'était la représentation des 25 têtes du quartier. Et je peux vous dire qu'au niveau artistique, c'était quelque chose de formidable. Donc ça, c'est aussi de l'intelligence culturelle qui arrive. On parlera après des arts en général, mais c'est aussi de l'éducation.
Oui, en fait, on ne parle plus d'éducation populaire parce que c'est une notion qui, comme on le voit dans les, comme on l'entend dans les micro-trottoirs, n'est plus à la mode. Donc aujourd'hui, on parle de lien social, de mixité sociale. Parce que il y a un vide, et notamment du fait du repli des gens, de l'individualisme qui est très prenant dans nos sociétés actuelles. Donc, mon collègue citait l'atelier poterie. Dans beaucoup d'associations d'éducation populaire, effectivement, c'était des ateliers comme le photoclub, comme je sais plus quel autre, enfin le ciné-club aussi, ça engendrait des rencontres. Et puis à l'époque, c'était des bénévoles. Et pas des bénévoles, des militants. Donc avec un partage de compétences et qui s'enrichissaient que collectivement. Et il y avait des associations qui étaient beaucoup plus généralistes, c'est-à-dire que il y avait de la poterie, il pouvait y avoir de la couture, il pouvait y avoir de la musique, il pouvait y avoir etc. Et c'était une association collective. C'est alors qu'aujourd'hui, et moi j'ai coutume de dire, mais ça schématise un petit peu, quand il y a une association de chats blancs qui se crée, derrière il y a une association de chats noirs. Mais une association de chats, il y en a plus. Et c'est un des problèmes aujourd'hui pour promouvoir l'éducation populaire.
Dans ce que vous dites là, à l'instant, j'entends le fait que des personnes viennent consommer une activité, que ce soit la poterie, la photo, enfin voilà, une activité artistique, sportive, voilà, mais ne s'implique plus forcément ou pas forcément dans la vie de l'association, de la structure, et justement en contribuant à créer du lien, et pas seulement par l'activité qu'ils ont choisie, mais en s'investissant de façon plus globale dans le projet associatif ou collectif de la structure. Il n'y a pas de question au bout, mais j'entendais un petit peu ce rapport-là, notamment la consommation d'une activité X ou Y. Je ne sais pas si quelqu'un veut réagir.
Ce qui m'intéresserait dans ce sens, c'est de savoir comment aujourd'hui vous voyez un partage et une construction de savoir égalitaire, parce que mine de rien, la prétention de l'éducation populaire, c'est qu'il n'y ait pas de hiérarchie. Il n'y a pas de hiérarchie entre les savoirs, entre les différents savoirs manuels, intellectuels. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de hiérarchie entre le sachant et l'apprenant. On est effectivement dans la création d'un nouveau savoir à la fin d'un atelier. Aujourd'hui, comment ça se porte, comment ça s'éprouve dans vos structures, et puis où est-ce que vous les voyez émerger ailleurs? S'il y a d'autres pistes que l'institutionnalisation, parce que mine de rien, c'est peut-être un peu le risque de la professionnalisation et de la perte des bénévoles militants, c'est qu'on s'inféode et in fine, on devient aussi l'institution de laquelle on essaie de sortir.
Je vois que tout le monde se regarde.
Non,
là.
Non, mais c'est parce que moi je vais laisser parler la collègue des Francas parce qu'elle doit partir en cours de route. Donc,
vous pouvez répéter la question.
Pour faire court, c'est comment aujourd'hui vous voyez l'égalité des savoirs. L'égalité et cette.
Alors nous sur le terrain, parce que c'est comme ça qu'on dit chez nous, sur le terrain, on la ressent pas directement avec les enfants, parce que notre travail est toujours le même et on a toujours un échange de savoir et de compétences avec eux et ça c'est ultra intéressant parce que même si effectivement Internet, toute cette nouvelle communication, elle peut être brouillante parfois, et ben sur d'autres fois, elle peut être sympathique parce que c'est des enfants qui vont s'informer et ça c'est ultra intéressant. Après sur des termes techniques, on a quand même un échange de savoir avec les professionnels de l'enfant. On est plus sur de la mise en réseau et sur du coup on revient sur de l'échange de compétences et de savoir. Ça s'était perdu sur une période et on était plus dans de la commande de consommation, d'activité de consommation. Donc nous la directive, mais c'est pas le bon mot, enfin le maître mot de nos élus, c'était non, on refuse ça. On continue à travailler sur des projets. Si une structure vous appelle pour dire bah je veux une intervention comme ça, non. C'est on va continuer à défendre en fait cette notion de projet, de travail en commun et de partage en fait, parce que c'est de ça qu'on vit, c'est du partage, même si c'est pas palpable et c'est pas monnayable, c'est ultra important parce que si un animateur qui nous appelle prend conscience du partage, du réseau et du savoir de chacun qu'on peut échanger, eh ben en fait pour nous c'est tout bénef parce qu'on se dit ben là notre rôle il a été identifié, il a été compris, pas au début mais en tout cas le fait d'appeler et de se déplacer sur les structures, ça c'est aussi très important parce que effectivement on fonctionne beaucoup par mail mais c'est pas parlant, on n'a pas l'intonation, on n'a pas la suite parce que parfois on n'est pas forcément non plus à l'aise avec l'écrit, donc on essaie de garder cette notion de volonté de travailler en commun, de partager et en tout cas c'est pas facile. Mais et on a moins de sollicitations si on part sur du quantitatif, mais on a toujours ce travail de qualité quand on le fait. Donc voilà. Je sais pas si j'ai répondu. C'était long ma réponse.
Bah, ma question aussi. Elle est en deux parties. Donc la deuxième, c'est aussi est-ce qu'il n'y a pas un risque dans l'institutionnalisation justement d'être dans cette consommation de savoir et dans à nouveau une hiérarchie de savoir ascendant, un savoir qui se livre, qui s'offre et qui ne se
oui oui, oui je crois plus. Que aujourd'hui les projets associatifs sont liés à des financements. Donc à des partenaires publics, qu'ils soient État, ville, agglo, etc., département ou régional, avec des projets, des objectifs pour obtenir des résultats comme la participation des habitants. Et tout ça, ça demande un travail important parce que tous les ans ou tous les deux ans ou tous les trois ans, on doit repenser, refaire des bilans, etc. Donc il y a ça qui fait que des professionnels n'ont pas assez d'emprise sur le terrain ou avec les personnes, alors qu'ils le souhaiteraient. Hein, mais on est bloqué par une administration qui est de plus en plus lourde. La deuxième chose, c'est que on est dans un monde de loisirs, de consommation de loisirs. Donc c'est vrai que en parlant de l'adhésion, aujourd'hui on n'adhère pas pour un projet. On adhère parce que c'est obligatoire pour faire une activité. Et on leur dit que c'est pour une assurance et éventuellement vous pourrez participer à l'Assemblée Générale. Donc il n'y a plus de construction de la personnalité, il n'y a plus d'échanges et de critiques éventuellement du collectif ou autre. On est dans une sorte d'impasse. Ceci étant, ça n'empêche pas que nous, à l'intérieur de nos associations, comme je l'ai dit pour le Méga Navarre de Rue, qui est véritablement des démarches, par exemple, c'est la troisième édition, et qui se perpétue, et petit à petit, on arrive à mener des projets, en sachant que les gens, entre eux, ils ont du mal à communiquer entre eux. Et quand on a un panel de gens qui, pour des différences ethniques, des différences sociales, etc., c'est pas facile de les faire communiquer entre eux. Donc, il faut leur proposer des projets qui leur conviennent au départ, et puis petit à petit, on les monte avec eux et on élargit et on progresse comme ça.
Est-ce que Didier Rouchet voulait réagir à la question soulevée à l'instant ?
Non, mais faut pas craindre la professionnalisation en fait de l'éducation populaire, parce que les professionnels en fait ils ont une mission de coordination, d'amener les gens à réfléchir, à raisonner, mais c'est une mission de coordination. C'est ils sont pas là pour faire. Il faut que les adhérents ou les habitants de quartier fassent. C'est vraiment leur apprendre à faire.
On touche à un sujet central, il me semble, qu'on va peut-être développer dans un petit instant, mais vraiment autour de cette notion politique. C'est-à-dire que le rapport aux institutions, il est forcément politique, mais le projet même d'une structure, notamment d'une association, elle émane, on a parlé du projet pédagogique, mais aussi d'une note d'intention ou d'un projet politique qui est celui de l'association. Avant de peut-être détailler un peu plus ce point-là, je voulais vous faire écouter un autre extrait de Petit Micro-Trottoir. Hein. Je l'aime bien parce que je l'ai tourné ce matin, alors j'aimerais bien qu'on le diffuse quand même. Sur la question, parce que on a un petit peu parlé là, mais ça s'adresse à qui tout ça?
Du coup, ça s'adresse à qui l'éducation populaire?
À toute la population.
Aux jeunes. À tout le monde.
Bah, à tout le monde.
À tout le monde. Tous ceux qui sont volontaires, il n'y a pas de problème.
Les enfants. Et les ados?
À tous.
Très rapidement, voilà, ça va être très court. Je pense, ça s'adresse à qui, l'éducation populaire?
À tous.
À tous, ça veut dire qui, à tous?
Bah, à tous, c'est enfants, familles, enfants valides, enfants porteurs de handicap,
adultes.
Personnes âgées. Oui, voilà, adultes. Enfin, tout le monde se sent concerné par l'éducation populaire, j'espère. Donc, oui, à tous.
Oui, c'est vrai qu'on résume souvent, mais sans doute sur des questions de budgétarisation et de là où ça alimente, donc autour des loisirs, de l'enfance, de l'action socio-culturelle, donc certains types de quartiers, certains territoires, mais en fait il y en a partout. On peut faire de l'action populaire aussi dans les beaux quartiers et avec des partages de savoirs. Enfin, dès lors qu'on abandonne cette hiérarchie des savoirs et cette distinction entre le sachant et l'apprenant, on est dans de l'éducation populaire.
On va s'accorder une première pause musicale et on revient dans un instant. On écoute Bourville avec Pierrette Bruno. Le morceau s'appelle Bientôt les vacances et nous quitte Céline Goulot et Marina Proust. Je rappelle que vous êtes toutes les deux chargées de mission respectivement et animatrices au sein des Francas de l'heure. Vous ne pouvez pas rester jusqu'au bout, mais on a été heureux de discuter avec vous et puis on vous rejoint. On vous retrouve prochainement. On écoute ce morceau de Bourville et Pierrette Bruno.
Bientôt, c'est les vacances. Et pour en profiter,
on va bien arriver.
Oh oui, il faut choisir d'avance.
J'en ris déjà.
Un coin pour cet été.
Je veux revoir ma Normandie.
Et moi mon soleil du midi. Oh,
la Normandie, au moins c'est près.
Oui, mais si près, il n'y a que des prés.
Dans le midi, il y a des cyprès.
Oui.
Ça me déplaît, hein? Ça me déplaît.
Mais qu'est-ce que c'est qui te déplaît?
D'aller si loin, voir des cyprès. Bientôt, oh. C'est les vacances.
Oh, t'es malin, ça. Cherchons, mais avant tout.
Mais oui, cherchons. Il faut trouver l'ambiance, c'est ça qu'il faut.
Qui change de chez nous, ça c'est le plus important.
On va louer un appartement.
Oh là là, l'hôtel est bien plus reposant. Mais
nous serions deux dans notre nid.
Oui, et moi toute seule à faire le lit.
Oui, mais je pourrais faire tous les repas.
Je ne veux pas.
Mais qu'est-ce que c'est que tu ne veux pas?
Manger tout le temps des eaux blancs, bien.
Quoi?
C'est les vacances.
Un cordon bleu comme moi.
Oh oui. Assez perdu de temps. Tais-y. Ouais.
Il faut de toute urgence.
J'hésite. Trouver
un passe-temps. Toutes les années, c'est pareil. Hein?
Moi, je voudrais aller pêcher.
Ah, moi, j'aimerais mieux aller danser.
Oui, faire du camping, c'est amusant.
Oh, j'ai peur des guêpes et des serpents.
Oui, mais faisons du nudisme intégral.
Oh, c'est anormal. Hein? C'est anormal.
C'est anormal. Pour quelle raison?
Je veux garder mes illusions, hein? Bientôt.
Bon, dis donc.
C'est les vacances.
Qu'est-ce que ça veut dire par là?
Il faut nous décider. Moi, je veux aller en France.
Oh, encore en France. Et moi, à l'étranger.
La folie des grandeurs.
La Suisse est un divin séjour.
Mais le franc-suisse est un peu lourd.
Oh, veux-tu qu'on aille aux Pays-Bas?
J'aime les hauts, mais pas les bas.
Alors grimpons sur le Simplon.
Je te dis non.
Hein?
Je te dis non.
Tu me dis non pour le Simplon.
Dans le métro, c'est ma station.
C'est les vacances.
Dis, j'ai une idée.
Mes ailes seront finies.
Dis, tu m'entends? J'ai une idée.
Mais oui, mais oui.
Avant qu'on ait la chance, on va aller dans une île.
D'avoir le même avis.
On va aller dans l'île Saint-Louis.
C'est un va.
Voilà, on vient d'écouter Bourville et c'était Pierrette Bruno et le morceau c'était bientôt les vacances. On est toujours en direct depuis 18h30 sur l'antenne de Principe Actif où ce soir on parle d'éducation populaire. Dans cette nouvelle émission que nous animons avec Olivier, on peut faire mieux, c'est le nom de cette émission, on parle d'éducation populaire. Nous étions en plateau avec Marina Proust et Céline Goulot des Francas de l'heure qui viennent de nous quitter, mais on est toujours ici en plateau avec Dominique Nocker de l'Amicale de Navarre et Didier Rouchet de l'Amicale laïque Évreux-Est, et on poursuit nos discussions.
Oui, Timothée, tu parlais du questionnaire sur les projets politiques des associations militantes en éducation populaire. Moi, je me posais la question, puis on commençait à en discuter. On n'écoutait pas trop Bourville sur effectivement cette volonté de changement social, de transformation de la société qui est inscrite dans l'éducation populaire. Aujourd'hui, en quoi elle est encore discutée? En quoi elle est encore d'actualité?
Politiquement, c'est très complexe parce que tous les financements viennent de directives de l'État. Avec des liens avec la CAF par exemple pour les centres sociaux, mais aussi avec la ville, l'aglo, et on est sur des dispositifs avec des objectifs auxquels on doit répondre et s'inscrire dans un projet d'action dans le cadre de ces dispositifs. Donc il y a aussi le rapport politique qui est aussi lui complexe, c'est-à-dire que effectivement on peut avoir une parole politique entre guillemets mais pas politicienne, mais ça peut contrarier des élus ou autres qui vont vous dire vous n'êtes plus dans les clous, faut pas faire de politique, etc. Alors qu'on fait, on a une parole politique parce que à partir du moment où on travaille avec des gens et on travaille sur la mixité, sur le rapport aux habitants, donc c'est l'expression d'une forme de politique, de citoyenneté. Mais il y a toujours ce je sais pas comment dire, mais on fait très attention dans l'écriture des textes. On répond plus par du concret ou la démarche de projet, mais pas sur la question de la transformation ou d'une transformation de société.
Voilà. Pour les financements, en fait, nous, on n'a pas du tout à se plaindre, hein. Que tout le monde se rassure. Le problème, c'est les différents financements, parce que il y a ce qui est du domaine de la culture, ce qui est du sport. Alors savoir le sport, ceux qui sont licenciés ou si c'est du sport loisir, est-ce que le yoga c'est de la culture ou est-ce que c'est du sport? Après, ça peut être du bien-être. Hein, mais alors là, on ne sait pas où on le met.
Il n'y a pas de budgétaire bien-être.
Il n'y a pas de financement pour le bien-être.
Voilà. C'est développement personnel.
Pourtant, après, ça devrait être central, le bien-être.
Enfin, bon. Après,
Oui, il faut payer pour ça. C'est pas le financement public. Pour le bien-être et le développement personnel.
Après, bon, vous avez les budgets CAF qui permettent, ou Ville pour la jeunesse, qui sont bien ciblés. Après, il y a des tranches d'âge qui sont ciblées. Hein. Il y a les tranches, j'ai plus 14-25, petite enfance, voilà. Donc, si vous voulez, c'est bon. Faut des professionnels pour s'y retrouver. Hein. Même si on suit ça de près, c'est assez compliqué. L'autre chose, en fait, on n'a pas encore testé. Un projet culturel, par exemple, sur 4 ans ou 5 ans, hein, qui puisse aboutir. Je ne sais pas comment le fonctionnement des subventions pourrait suivre sur 5 ans. On n'a pas encore élaboré ce type de projet. Dans la durée, quoi. Tous les ans, il faut remettre un dossier pour avoir la continuité.
Et tous les ans, faire un bilan, etc., etc.
Je me demandais, Olivier parlait de transformation sociale, voilà, dans le sens de je sais pas exactement d'ailleurs, Olivier, ce que vous mettiez derrière ces thèmes. Enfin, j'ai une petite idée, mais si vous pouvez
pas. Ce que j'en mets personnellement est pas très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est comment ça peut être encore agi, vécu, discuté. Oui, surtout vécu aujourd'hui dans l'éducation populaire. On se rend compte que. On vit aussi des fois sur un mythe. Alors, je vais m'en poser de questions, mais on vit parfois sur un mythe d'un temps qui a pas vraiment existé. C'est-à-dire qu'il y a pas eu un moment où on a eu des coups des franches, éducation militant d'éducation populaire, où on a eu les coups des franches avec du financement public pour faire vraiment, enfin, ce qui est posé, c'est-à-dire une société où il n'y a plus de différence entre les individus en fonction de leur origine, de leur ethnie, de leur appartenance communautaire.
Pas forcément, parce que dans les années 70, par exemple, les associations type MJC, par exemple, Maison des Jeunes et de la Culture, ils avaient un financement de fonctionnement général. Donc ça catégorisait pas les actions qu'on devait mener. Donc à l'intérieur de ce fonctionnement général, effectivement il y avait du fonctionnement général, mais ça nous permettait de mener des actions comme nous on le sentait ou comme nous on le souhaitait, et en fonction aussi des adhérents ou de la population qui souhaitait mener un projet.
La situation est plus dégradée au niveau de la budgétarisation.
C'est plus sectorisé.
Ouais.
Et c'est vrai que tous les deux, on est sur des quartiers dits sensibles, donc assujettis à la politique de la ville. Et il y a eu des rénovations urbaines, par exemple. Donc sur le bâtiment, c'est important. Mais par contre, sur le social, ça suit pas. Ça a beaucoup de mal à suivre en termes de financement, je parle. Hein.
On va peut-être se poser, même si ça a déjà été un petit peu abordé, de la méthode, comment on fait pour faire de l'éducation populaire. Ça, on en a déjà un petit peu parlé, mais un dernier extrait de micro-trottoir et on revient juste après.
Et comment on fait de l'éducation populaire selon vous?
Je sais pas.
On ne comprend pas très bien la question. On est professeur, on fait de l'éducation. Hein.
Vous en faites là? Ne serait-ce qu'en interviewant les gens, en faisant des manifestations. C'est tout ça qui sert à l'éducation, non? Populaire, pas populaire, de toute façon, c'est quoi le peuple? C'est nous?
Ah, ça, je sais pas. Bah, moi, j'essaye de faire au mieux pour mes enfants, d'éduquer au mieux. Et voilà, quoi. Je pense que c'est les bases. Après, c'est de parents aux enfants, de génération en génération. Je pense que c'est comme ça.
Bien, on fait de l'éducation populaire d'abord en ouvrant le savoir à tout le monde. Sans discrimination, hein, et sans laisser de gens sur la route, comme on dit. C'est-à-dire d'abord avoir des enseignants bien formés, qui n'aient pas trop d'enfants dans les écoles, parce que ça c'est important. Parce qu'un enseignant qui a 27 ou 30 élèves dans la classe, il peut pas travailler comme un enfant qui en a entre 15 et 20. Hein. Et là c'est l'importance, parce que chacun n'avance pas à la même vitesse. Donc il faut tenir compte, ceux qui ont des possibilités d'avancer très vite, bon, on les soutient, on les aide, mais ceux qui n'ont pas la possibilité, il faut être plus à leur écoute, plus à leur à pouvoir les former, les aider.
Bah des tout petits par le respect d'autrui.
Hormis la confusion qu'on retrouve encore avec éducation populaire et éducation nationale dans cet extrait-là, peut-être que vous souhaitez réagir à ce qu'on vient d'écouter, Didier Rouché.
Il y a des morceaux qui sont intéressants parce que en fait les gens ils vous parlent d'éducation de leurs enfants ou de leurs voisins, que ça soit syndical ou apprendre à manifester ou autre, c'est déjà en dehors du système scolaire. C'est déjà un peu du raisonnement, apprendre aux gens à raisonner et à se dire que voilà, on peut faire quelque chose. Quand vous faites, avec Navarre, on a fait la marche pour le climat, on est venu chacun des quartiers jusqu'à la cathédrale, bon, on ramassait les mégots de cigarettes, ça paraît comme ça anodin, mais quand on explique aux gens le nombre de litres d'eau polluée et le nombre de cigarettes qui sont jetées dans la rue, voilà, tout le monde se rend compte, ça c'est de l'éducation populaire aussi. Et ça, c'est fait avec tout le monde. C'est de la co-construction.
Moi, je retiens aussi, par rapport au dernier micro-trottoir, là, l'idée de formation. Donc, effectivement, on s'invente pas militant de l'éducation populaire, même si à la base, on est toujours militant, mais avec ses compétences et ses savoir-faire, ses savoir-être. Mais il y a besoin, à un moment donné, que les gens soient formés. Pour savoir vivre en groupe, pour pouvoir exprimer une opinion, la construire, l'étayer, et de participer de plus en plus aux règles des institutions. En tout cas, de pouvoir communiquer soit avec des gens entre guillemets plus intelligents que nous, alors que moi, venant du peuple, j'ai moins d'instructions. Or c'est pas toujours vrai parce que il y a la culture populaire, au sens noble du terme, qui est très importante et que l'on retrouve beaucoup dans nos actions autour des habitants des quartiers.
Ça a été un peu abordé, mais je veux bien qu'on précise le lien qu'il existe avec le monde scolaire, puisque on l'entendait encore dans le dernier extrait du micro-trottoir, il y a encore cette confusion qui règne pour une bonne partie des gens.
Entre éducation et enseignement, oui, ouais. C'est souvent ça.
Et voilà, je sais pas, votre regard de lien ou de complément en termes éducatifs, ou peut-être qu'en fait l'éducation populaire, c'est encore autre chose, qui est pas forcément comparable à l'instruction publique, à l'éducation nationale, enfin à l'enseignement.
Quand on s'amuse dans l'éducation nationale, il y a des gens des fois qui le font en fin d'année à utiliser les outils d'éducation populaire, ça fait quand même un vrai bazar, quoi. Alors que quand on le vit ailleurs, dans la rue, dans une cour, d'un centre de loisirs, ça se passe plutôt très très bien. Donc on voit quand même que même l'architecture des lieux est fait pour que pas forcément de rapport égalitaire et d'expression de la liberté. Partout. Après, les outils, ils sont nombreux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils s'en créent ou recréent ou redécouvrent tout le temps. Parce que le but, c'est que ça s'épuise jamais et ça s'épuise toujours. Les gens, ils se lassent. Même les gens qui viennent avec l'outil, hein, faire 3 ans, 4 ans, 5 ans la même chose, ça devient lassant. Donc, on se renouvelle. Contrairement peut-être à un cours d'orthographe qui peut paraître immuable dans le temps, dans la façon dont on transmet. On est moins dans la transmission on est surtout dans la construction d'un savoir. Donc, je crois que ce qui est surtout intéressant, c'est de pouvoir décloisonner à un moment les lieux, parce que c'est pas facile de faire venir les gens dans une salle pour vivre un truc sympa. C'est pas toujours facile.
Non, c'est vrai. Rappelez quand même, parce que les grandes fédérations d'éducation populaire qui sont nées dans les années 1900, notamment après la guerre, parce que c'est aussi issu d'un mouvement de la résistance et plus en amont du Front populaire. Donc, rappelez que la Ligue de l'enseignement a été créée à ce moment-là. Donc, voilà, c'est un lien direct avec l'école publique. Et donc voilà quoi, c'est important aussi de donc quand les gens parlent effectivement du rapport à l'école, je remarque aussi qu'ils ne parlent pas de ce qu'il y a après l'école ou pendant les vacances. Voilà, il y a personne qui a cité le mot colonie par exemple, qui n'existe plus maintenant, c'est des séjours.
Parler des colonies de vacances, hein, pour que les choses soient claires.
Oui, colonies de vacances. Oui, oui, t'as raison. Oui, ça, c'est un mauvais lapsus.
Oui, on sent, on l'a dit et on l'a entendu, cette confusion qui voilà, et ça a été relevé un petit peu par notamment par une dame sur le fait que c'était l'éducation. Je résumerais peut-être ça avec maladresse, mais de tous par tous tout le temps. Enfin, il y avait cette idée là qui est un peu une ligne directrice du mouvement d'éducation populaire. On a parlé un petit peu, mais on a fait que le toucher du doigt, et j'aimerais bien qu'on insiste un peu là-dessus sur les outils, comment on la méthodologie, les outils à la disposition des gens qui font vivre l'éducation populaire. Comment on en fait et comment on met je fais le geste avec les mains, les gens le voient pas parce qu'on a la radio, mais comment on met les mains dans le cambouis de justement, comment on fait tourner le moteur de l'éducation populaire, Didier Rouchet?
Alors l'éducation populaire, déjà pour les gens qui faut tomber dedans tout petit hein. Et après en fait c'est du militantisme hein, quand mon collègue dit que c'est des militants d'éducation populaire, c'est du militantisme hein. C'est viens avec moi, tu vas voir, on fait des trucs super intéressants. Bon, le plus dur c'est que maintenant les gens ils sont dans l'instantané. On va les avoir une fois, deux fois sur un projet, mais ça sera pas en continu.
C'est dur de fidéliser le public.
On fidélise pas forcément les gens. Donc, nous, au niveau de l'association, on travaille, on a monté un conseil jeune. C'est des jeunes qui vont construire, par exemple, leurs vacances ou autres, mais on les forme, on va leur demander aussi, de même que les institutions nous demandent le résultat, que voilà ce que ça a donné, le nombre de jeunes qui ont participé, et en fait, on réinvente, j'allais dire, c'est peut-être pas le bon terme, mais on réinvente les scouts, quoi, faire soi-même pour les jeunes, mais c'est un conseil de jeunes qui vont rentrer en une sorte de militantisme, mais à leur niveau, hein.
Les scouts, on n'en a pas autour de la table. Je crois qu'ils ont encore des agréments d'éducation populaire.
Absolument, absolument. Ils peuvent former des animateurs de centres de loisirs et de colonies de vacances ou de séjour, puisqu'on parle de ça maintenant.
Sur la question de juste sur les comités de jeunes, je pense que ça existe aussi à l'Amicale de Navarre. En tout cas, ça a été expérimenté là pas plus tard que récemment. On en a eu l'expression sur le festival d'Edal qui a été mené par le Tangram, puisqu'il y avait des jeunes qui étaient associés au comité de pilotage qui prenaient certaines décisions. Là, en l'occurrence, sur le festival, et je sais qu'il y avait des jeunes de l'Amicale de Navarre, mais plus globalement sur cette idée-là, choisir, discuter, se mettre d'accord sur des orientations du groupe, c'est ni plus ni moins que de la politique. On expérimente la démocratie, voilà, en groupe avec des règles. On s'approprie les règles, on les discute, on les expérimente, on s'y confronte parfois aux limites de la notion de groupe et de ce que ça implique. Mais voilà, dans le projet éducatif, quand on parle de comité de jeunes, en fait. Quelque part, le projet de vacances, c'est pas forcément ça le but à atteindre quand on est éducateur. J'imagine que c'est ça c'est le prétexte, c'est le moyen, c'est le support pour je sais pas vous certains font nom de la tête. Je lance la discussion comme ça.
Oui, mais voilà. Oui, tu abordes bien la question. On crée les conditions pour que les gens s'expriment et s'expriment collectivement. Donc, à l'intérieur de chaque groupe, il y a des idées qui émergent, il y a des compromis à faire, il y a des majorités à tenir ou à engager. Que ce soit nous avec le club festif qui est composé avec des dames du quartier, malheureusement il n'y a pas d'hommes, il n'y a pas la parité sur cette question, mais ou les actions, les groupes de jeunes, comme tu l'as dit, pour le festival. Dédale, d'Evreux, où eux, ils sont en train de monter des projets de vacances, de séjour, etc. Donc, il y a les animateurs éducateurs, oui, ils construisent ça avec les jeunes en tenant compte de la personnalité du jeune et de la culture du jeune. Ça aussi, c'est important de mettre ça en avant.
Et quand... quand on dit voilà les politiques, nous c'est la politique de l'association, hein, parce que on n'a rien à voir avec la politique. Quand je dis raisonner ou croire en politique, c'est plutôt l'homme providentiel et les gens croient, mais ils raisonnent pas beaucoup.
Vous souhaitiez remettre ça. Olivier, un mot ?
Oui, moi, cette pratique-là, par exemple, un séjour de vacances, et c'est les jeunes qui décident ou qui gèrent le budget, qui vont trouver de l'argent en plus en faisant telle ou telle action, etc. Enfin, je pense que c'est vraiment un exemple excellent et éclairant sur ce que peut être l'éducation populaire. Après, sur la finalité, je me demande si est-ce que ça suffit pas quand on écrit un projet. On peut faire des pages effectivement sur ces apprentissages-là, mais est-ce que mine de rien, le fait d'aller passer un bon moment ailleurs, entre bandes de potes, ça suffirait pas à finaliser un projet.
C'est ça qui manque.
Entièrement d'accord avec toi, parce que effectivement, moi, ça m'est arrivé dans une carrière déjà passée, ça m'est arrivé de dire à des institutionnels, attendez, le projet, c'est les vacances. C'est pas ce que vous demandez, hein, ce qui soit X, etc. C'est les vacances. Donc, avec un groupe de jeunes, effectivement, ils ont le droit aux vacances, ils ont le droit de construire leurs vacances, ils ont le droit d'aller où ils ont envie d'aller. Après, il y a tout un contexte qui fait que économique, machin, etc. Donc, c'est là où les animateurs interviennent. Mais le droit au loisir, le droit aux vacances, ça existe.
On va se permettre. Je vais me permettre.
Et on consomme pas forcément.
Sans consommer, oui.
On n'est pas forcément à consommer.
Un court extrait musical avant de conclure cette émission. Pour faire le clin d'œil avec voilà quelque chose qu'on a évoqué, mais peut-être on aurait l'occasion sur une autre émission de creuser, mais le lien avec la culture ouvrière, voilà, on n'a pas forcément beaucoup parlé. Et je présente juste en un mot, parce que je l'ai découvert, j'ai découvert cette compagnie en préparant l'émission. La compagnie s'appelle Zigzazou. Le morceau qu'on va écouter, l'extrait, s'appelle Bébé Boléro. C'est un extrait d'une brocante sonore. Il présente ça comme un opéra ouvrier, voilà, c'est pour ça que ça m'a fait penser à ça. Et sur scène, on retrouve tout un capharnaüm de ferraille, de tuyauterie, d'outils, de boîtes de conserve. Enfin voilà, vous voyez un peu le décorum, et les musiciens jouent sur tous ces objets insolites. On écoute un extrait de la compagnie Zigzazou comme ça.
Thank you.
Voilà un extrait de la compagnie Zik Zazou, un opéra ouvrier que vous pouvez retrouver sous l'appellation. Alors c'est une brocante sonore. Et là, c'était l'extrait Bébé Boléro. Vous pouvez retrouver ça évidemment sur les internets qui vont bien. Le morceau est trop long, donc on ne l'écoutera pas en entier. On va terminer cette première émission. On peut faire mieux avec l'ami Olivier. Je rappelle qu'on est toujours en plateau avec nos invités. Didier Rouchet, vous êtes vice-président de l'Amitié Laïque Évreux-Est, et Dominique Nockert, vous êtes administrateur à l'Amicale de Navarre. Nous ont quitté Céline Goulot, chargée de mission, et Marina Proust, animatrice chez les Franck Adler, pour être tout à fait complet. Dernière question, puisque il nous reste 5 minutes pour conclure cette émission. On parlait d'éducation populaire depuis maintenant une heure. J'ai envie de vous laisser avec une question un peu large, un peu ouverte, mais qu'est-ce qui reste à faire pour les acteurs et les actrices de l'éducation populaire? Vers quoi souhaitez-vous aller et sur quel chantier ou quel chantier il reste pour éducation populaire? Voilà, vous avez un peu moins de 5 minutes. Un peu moins de 5 minutes pour.
Alors, l'éducation populaire, déjà, ça commence par la relève. Hein. Quand je vois les militants d'éducation populaire à Évreux, on a tous pris de la bouteille, hein, même très largement. Donc, les conseils de jeunes et puis les jeunes adhérents ou adhérentes qui investissent les conseils d'administration, c'est une très bonne chose. Ça, c'est une première partie. Et l'autre partie, pour faire vivre l'éducation populaire, serait d'avoir des budgets culturels beaucoup plus importants. On a des domaines musicaux, peinture, art plastique, autres, qui sont pas complètement investis par l'éducation populaire, faute de moyens. Ce sont des activités chères.
J'entends que là-dessus, il y a une clé sur le biais ou les biais artistiques et culturels. Oui. Dominique, un mot sur, qu'est-ce qui reste à faire? Quel grand chantier pour l'éducation populaire?
Le grand chantier, c'est transmettre et retransmettre. Nos expériences, nos vécus, et nos savoir-être. Et puis sur les jeunes, je crois qu'il y a des jeunes qui se mobilisent pour des projets précis ou des actions ou des revendications précises. Mais je pense aux Fab Labs, qui me paraissent être dans un vrai rapport éducation populaire. Donc voilà. Et les anciens, il faut qu'on se serve aussi, enfin, il faut qu'on se serve, faut qu'on apprécie et qu'on écoute les cultures des jeunes et les propos des jeunes de façon à revoir un peu notre logiciel ou en tout cas l'adapter pour qu'il vive une société plus juste, plus égalitaire et plus et plus culturelle.
Ça a été évoqué un moment par notamment par Didier quand vous avez parlé d'écologie. J'imaginais que vous en parlieriez peut-être, mais ça donnera lieu encore une fois à une autre émission. Mais quand on voit les mouvements d'étudiants, lycéens qui se mobilisent pour le climat, moi j'ai eu spontanément envie de me dire que ça c'était un exemple de militantisme et d'éducation, en l'occurrence d'éducation à l'écologie et à l'environnement, qui avait fonctionné et que c'était pas passé seulement que par l'éducation nationale, par les instituteurs, les professeurs des écoles et au secondaire, mais qu'aussi dans les associations, dans les maisons de quartier, les MJC, etc., c'était jouer des choses autour de ces enjeux-là. Je ne sais pas si en un mot, vous voulez vous exprimer. Ouais,
tu as raison, c'est une grande différence aujourd'hui. C'est-à-dire que les associations institutionnelles, comme les MJC et autres, n'arrivent plus ou ne peuvent plus emmener ou porter la parole avec les jeunes. Et je trouve que le mouvement des lycéens et des étudiants qui disent on va faire grève de l'école pour le climat, je trouve ça génial.
Didier Rouchet,
là, c'est vraiment l'écologie est un point au niveau de la co-construction, c'est-à-dire de l'éducation. Les gens s'auto-éduquent entre eux, en dehors de la télé, d'une partie des réseaux sociaux ou autres, c'est les gens se mettent à lire des choses sur l'écologie et aller chercher la vérité. Et ça, c'est aussi l'éducation populaire, c'est une recherche de vérité.
ça me permet de vous annoncer que mercredi prochain, à partir de 19h30, nous serons en direct du club du Cube, donc du Tangram, pour une émission autour de qui a pour titre l'urgence climatique, virgule, une urgence vitale, point d'interrogation, où nous discuterons avec les différents acteurs environnementaux et écologiques du territoire hébroïcien et un peu plus large. Monsieur Olivier, je ne sais pas si vous vouliez intervenir une dernière fois, que ça va être
bien sûr. Alors,
de conclure.
Pour proposer aux gens qui voudraient développer un peu le sujet, je citerai un livre disponible assez facilement en PDF sur Internet, toujours gratuit, parce que gratuit...
C'est dans tes prix.
Donc c'est Être radical, manuel pragmatique pour radicaux réalistes de Solaninsky. Donc c'est un ouvrage phare et c'est un qui allie et pratique et beaucoup de finalités... théoriques. Et puis une vidéo facilement visible sur YouTube, l'éducation populaire c'est quoi, de Franck Lepage.
Excellent Franck Lepage.
Excellent Franck Lepage, une conférence gesticulée, un outil d'éducation populaire.
Le créateur des conférences gesticulées.
Ouais, l'un des.
En tout cas, merci à toutes et tous de nous avoir suivis. C'était On peut faire mieux, une nouvelle émission co-animée avec vous, Olivier. Merci encore de m'avoir accompagné. Merci à nos invités. Je rappelle que nous étions un peu plus tôt dans cette émission avec Céline Goulot, chargée de mission, et Marina Proust, animatrice, toutes les deux pour les Franck Adler. Nous étions également avec Dominique Nocker de l'Amicale de Navarre et Didier Rouchet de l'Amicale laïque Évreux-Est. Vous pourrez retrouver ce programme en podcast très bientôt sur notre site internet www.principeactif.net. On se retrouve le jeudi 9 mai prochain pour évoquer les violences policières. Bonne fin de journée à l'écoute des programmes de Principe Actif. À 21h, c'est notamment Pick Up. Ciao, ciao, ciao.